Le troisième témoignage d'histoire de vie, eh bien, c'est celui de Sadika. Sadika, elle, vivait à Kaboul avec son mari et trois enfants. Ils n'étaient pas riches, dit-elle, mais ils avaient une vie heureuse. Ses enfants avaient quelques ambitions. Sa fille, Wazma, qui a 16 ans, voulait devenir gynécologue. Son fils, Massoud, 14 ans, voulait devenir un ingénieur. Et son plus jeune, sa plus jeune fille, Laila, qui a 7 ans, très énergique, avait encore à cet âge-là plein de rêves pas très précis. Et puis, à travers la très longue guerre civile en Afghanistan, eh bien, Kaboul est resté relativement sûr, dit-elle, jusqu'en 1993. Et puis, un dimanche, son mari, ses enfants, alors tout le monde était à la maison, elle était à l'école pour aller chercher son salaire mensuel. Elle est enseignante. Et tout à coup, il y a eu mais vraiment un flot de roquettes qui ont annoncé que quelque chose de terrible se passait sur la ville. Alors, elle a commencé à courir en essayant de rejoindre sa maison. Mais, comme elle le dit elle-même, ma douce petite maison n'existait plus. Il n'y avait que de la poussière. J'ai hurlé les noms de mes enfants, dit-elle, et j'ai pu entendre ma petite Laila qui essayait de me répondre. J'ai ensuite trouvé mon mari qui était couvert de sang. Mes voisins l'ont emmené à l'hôpital. Plus tard, j'ai trouvé ma fille Wazma, mais elle était morte. Et j'étais vraiment comme folle, dit Sadika. Mon fils... Je courais dans tous les sens et j'avais encore cet ultime espoir de retrouver mon fils Massoud. Mais ils n'ont jamais retrouvé son corps, seulement quelques bouts de chair et de sang. Mon mari est mort des suites de ses blessures après 15 jours à l'hôpital et parce qu'il n'y avait pas assez de médicaments et de soins médicaux pour l'aider dans les terribles blessures qu'il avait eues. Alors avec ma fille Laila, donc qui avait 7 ans, j'ai fui de Kaboul pour aller à Mazar-e-Sharif, au nord de l'Afghanistan. Je ne sais pas comment remercier mes parents de m'avoir laissé recevoir une éducation, parce que comme ça aujourd'hui, eh bien, je peux m'occuper moi-même de ma fille, et de moi bien sûr aussi. J'aimerais essayer de recommencer une nouvelle vie avec ma fille, de façon à ce qu'elle puisse réaliser peut-être les rêves de ses frères et sœurs. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, je ne sais pas comment ça va pouvoir se réaliser. Gulalai nous racontait, lorsqu'elle nous parlait de la création du réseau des femmes afghanes en 1995, après Pékin, que les moudjahidines de l'époque, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas que les talibans qui ont imposé une situation épouvantable aux femmes en Afghanistan, que les moudjahidines au pouvoir à l'époque avaient lancé une fatwa en disant « ces femmes, en parlant des femmes réunies à Pékin, ce sont les femmes de Satan », pour vous imaginer un petit peu la situation. Alors, bien sûr, c'est très difficile pour les femmes de circuler, de faire vivre ce réseau, que ce soit en Pakistan ou en Afghanistan. Par exemple, la situation au Pakistan, il y a des violences terribles. Par exemple, il n'est pas rare que les moudjahides, donc les combattants, fassent subir des viols, des tortures aux femmes devant toute la famille. Avec la force de leur fusil, tout simplement. Et évidemment, cette situation était déjà monstrueuse. Mais avec les talibans, comme dit Gulalai, on est passé du mauvais au pire. C'est évidemment une explication assez tragique de penser que c'était déjà épouvantable et qu'aujourd'hui, bien, c'est encore plus grave. Par exemple, Nouiria racontait que donc, avant il y avait des viols, aujourd'hui peut-être les choses ne se passent plus comme ça, il n'y a peut-être plus de viols organisés par les soldats, mais c'est par contre les mariages forcés de fillettes de 10 ans. Et à leur avis, c'est évidemment ces mariages forcés sont l'équivalent d'un viol rendu légal. Alors, il se trouve qu'il y a des femmes qui, à l'époque, se sentaient bien avec le tchadri, ce fameux voile que doivent porter les femmes aujourd'hui, ou burqa. Mais il s'avère que d'autres, au contraire, comme des jeunes filles qui sont aujourd'hui encore célibataires, qui ont entre 17 et 18 ans et qui se retrouvent tout à coup à cause de la guerre responsables de leur famille, et elles ne veulent pas entendre parler de mariage car elles estiment que c'est pas comme ça qu'elles vont s'en sortir. Alors elles ont une situation un petit peu plus particulière. Elles utilisent ce voile pour se protéger, bizarrement, des yeux des hommes pour éviter l'histoire du mariage. Donc finalement, c'est d'une façon que les femmes utilisent le tchadri ou le burqa à leur avantage. Après 1992, eh bien, il s'avère que nous disaient Goulala et Nouria et Shafika que la majorité des Afghans éduqués ont fui l'Afghanistan au Pakistan. Plus de 3 millions de personnes sont parties, que ce soit des ingénieurs, docteurs, médecins, comme je vous le disais tout à l'heure. Et tous ces gens-là, dans les camps de réfugiés, se sont retrouvés à devoir faire des petits boulots, à vivre une vie vraiment épouvantable, par exemple, à aller vendre des petites choses sur les marchés, de façon à avoir un tout petit peu d'argent pour envoyer leurs enfants dans les écoles, puisqu'il n'existe plus que des écoles privées. Alors par exemple, Shafika qui a ouvert une école et Nouria aussi, eh bien elles font payer des très très petites sommes, un tout petit peu juste histoire d'avoir un minimum de choses, c'est aussi sa façon à elle de faire vivre sa famille. Eh bien il semble qu'il y ait des gens qui n'ont même pas l'argent pour pouvoir envoyer leurs enfants, même pas cette petite somme pour envoyer leurs enfants. Il s'avère que les Afghans sont extrêmement mal acceptés. C'est ce que témoignait tout à l'heure une des femmes dont je vous parlais. Les Afghans sont très mal acceptés par les Pakistanais, mal acceptés en tant que réfugiés et donc n'ont absolument aucune protection et sont dans très grandes difficultés. Nouria nous racontait par exemple cet exemple d'une maman qui rentre dans sa tente et qui tout à coup constate que sa toute petite fille s'est fait violer. Ou bien cette autre famille qui s'étonne de voir son gamin rentrer avec une terrible blessure alors qu'il a disparu depuis 4-5 jours, qu'on le cherchait partout, qu'on ne savait pas où il était. Et il s'avère qu'on lui a volé un rein, donc trafic d'organes. Donc une situation terriblement dangereuse. Et dans un petit feuillet que le réseau des femmes afghanes a publié à Islamabad et à Peshawar, elle donne des exemples de cas de violence contre les femmes et des exemples de femmes qui, elles, ont osé élever la voix pour parler de ces violences qui sont contre elles. Il y a 4 ans, témoigne Parwan, j'étais la mère de 2 très petits bébés qui n'avaient que moi pour s'occuper d'eux après la mort de leur père. Comme d'habitude, un matin où il faisait extrêmement froid, alors que 2 d'entre eux étaient encore en train de dormir, j'ai fermé la porte derrière moi à la maison et j'ai fait qu'ils m'attendent parce que moi je devais aller faire la queue pour acheter du pain pour le petit déjeuner. Tout à coup, une jeep militaire s'est arrêtée, 2 hommes sont sortis et m'ont tiré à l'intérieur de la maison. Il n'y avait personne dans la rue qui était très noire, puisque c'était très très tôt le matin. J'ai eu beau hurler comme une femme folle, personne ne m'a entendue. Je pense que j'ai dû m'évanouir. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis trouvée entourée par plusieurs hommes avec des fusils. L'un après l'autre, ils m'ont violée alors que il m'avait simplement jetée sur le plancher. Tout le temps, je pensais à mes deux petits-enfants et je ne sais pas combien de temps tout ceci a duré, combien de jours je suis restée là, mais je ne pensais qu'à une chose, c'était à mes deux enfants. J'ai été gardée effectivement plusieurs jours, mais je ne me rappelle pas combien de jours. Finalement, lorsqu'ils m'ont jetée à la rue un soir, je ne pouvais plus me tenir debout sur mes pieds. J'ai essayé de me ressaisir et de marcher tant bien que mal jusque vers ma maison. J'ai trouvé mes deux enfants morts, gelés. Je ne sais pas s'ils sont morts de faim ou s'ils avaient été tués par le froid. Ghazni témoigne pour nous de violences contre les femmes, contre elles. Ils étaient environ 12 et tous ils portaient des kalachnikovs avec leur visage recouvert par un tissu. Ils nous ont demandé de leur donner nos filles. J'ai refusé. Ils n'ont pas accepté, bien évidemment. Et ils ont demandé à pouvoir parler avec elle, ma fille en l'occurrence. Alors, nous l'avons sortie de la place où elle s'était cachée et elle a vraiment hurlé qu'elle ne voulait pas aller avec eux. Un de ces 12 hommes a pointé son fusil sur elle et lui a tiré dans le front, entre les yeux. Elle est morte. Elle avait seulement 20 ans et elle allait finir son école secondaire lorsque la guerre a commencé. Nous avons pu enterrer son corps le même jour. C'était il y a 4 ans. Pagman, ils ont tué mon père juste devant moi. C'était il y a 3 ans. Il s'occupait d'un petit magasin et il essayait de résister à leurs demandes. Un jour, c'était à peu près 9h du soir, alors que mon père était revenu du magasin, ils ont fait éruption dans notre maison avec, disait-il, l'ordre de tuer mon père. Ils sont venus tuer mon père, disait-il, parce que il insistait pour que ses filles aillent à l'école. Eh bien, depuis lors, les Moudjahidines ont empêché moi d'aller à l'école, mais ce n'était pas suffisant. Ils ont aussi tué mon père et je ne peux pas décrire ce qu'ils m'ont fait à moi après, juste après, alors que j'étais à côté de mon père mort. Mais nous savions que nous n'avions pas d'autre choix, si ce n'est quitter le pays. Témoignage d'une femme à Mazar-i-Sharif. L'année dernière, la ville n'était plus approvisionnée convenablement en eau à cause des combats et nous devions nous arranger pour prendre de l'eau dans les diverses fontaines publiques de la ville. Mais faire cela, c'était prendre beaucoup de risques, et entre autres celui d'être tué. Je me souviens, entre autres, de lorsqu'un jour, le fils de mon voisin, qui a 12 ans, est sorti un jour pour aller chercher de l'eau pour sa famille. Le père était parti depuis longtemps à la guerre. Et ce jour-là, eh bien, le garçon a été tué. Sa mère l'a cherché partout, mais elle a aussi été tuée. Nous avons tous vu cela depuis derrière les rideaux de nos maisons. Personne n'osait sortir et leurs corps sont restés près de la fontaine. Quelques jours plus tard, j'ai vu des chiens qui se battaient près de la fontaine publique. J'ai fui l'Afghanistan il y a quelques mois, alors que mon mari avait été tué et que j'ai perdu mon poste d'enseignante. Je suis venue au Pakistan avec mes 3 petits-enfants, un qui avait 5, l'autre 3 et 2 ans, le troisième. J'étais heureuse de trouver un travail comme domestique dans une maison d'un diplomate. Là, dans une petite chambre à côté de la grande maison, j'ai trouvé un abri pour mes 3 enfants et pour moi-même. Un jour, j'ai remarqué qu'il y avait des marques rouges et bleues sur le corps de ma fille de 5 ans et sur mon fils de 3 ans. Ils m'ont dit que l'homme pour qui je travaillais les avait embrassés, alors après les avoir emmenés dans sa maison. Je ne savais pas ce que je devais penser ou faire de ce témoignage et quelques jours plus tard, alors que j'étais occupée à nettoyer la grande maison, j'ai réalisé que je n'avais pas vu ma petite fille depuis quelque temps. Je suis sortie de la maison pour aller dans la petite chambre qui nous servait à nous de maison et mon fils m'a dit que le propriétaire de la maison avait emmené ma petite fille dans sa maison. J'ai couru comme une folle dans toutes les chambres de la maison, l'une après l'autre. Et alors, dans une des chambres, j'ai vu mon employé, qui était mon patron, qui était en train d'abuser sexuellement de ma petite fille. J'ai cru devenir folle et j'ai attrapé ma petite fille et avec mes deux autres enfants, nous sommes sortis en courant de la maison. Je ne savais pas où aller. J'avais très peu d'argent, mais j'ai décidé de louer une petite chambre ailleurs. Et ma petite fille a commencé à avoir plein d'affections. Je n'avais pas d'argent pour l'emmener à l'hôpital. Aucune des autorités ne voulait croire évidemment ce que je racontais. Et lorsque j'ai voulu remplir une plainte contre mon patron, c'était encore pire. Ils ont dit que je mentais, que c'était un homme d'importance et que personne ne ferait une chose aussi horrible que ça dans le statut qu'il avait. J'étais désespérée. Et finalement, je me suis rapprochée d'autres femmes réfugiés afghanes pour leur demander de l'aide et entre autres j'ai reçu l'appui d'un groupe de femmes afghanes qui étaient d'accord ensuite de m'aider. Témoignage d'une femme à Kandahar encore. Je suis une femme médecin dans un hôpital. Il y a 6 mois, un enfant malade avec une très forte, très grave diarrhée m'a été amené dans le quartier des femmes. Je me suis précipitée pour prendre l'enfant dans la chambre, dans la pièce d'urgence. Et alors que j'essayais d'aider l'enfant, j'ai senti une drôle de chose dans son dos. En état de choc, je l'ai retourné et alors j'ai repris un autre coup au cœur. Et je n'ai pas pu m'empêcher de crier. Mon cœur battait à 120 à l'heure, si je puis dire, et j'avais une terrible douleur parce que Et cela m'a fait tomber dans les pommes. Et lorsque on m'a relevé du sol, eh bien, quelqu'un m'a dit que j'avais été, en fait, dans mon travail, frappée par la tête par un jeune militant homme, parce que, tout simplement, il refusait que je soigne cet enfant, ce petit garçon. Et il était entré dans l'espace réservé aux femmes et m'avait battue. Et c'est ce qui avait provoqué, sans que je m'en rende compte, cet évanouissement. Rachan, qui est la fille d'un enseignant dans la ville de Farah, avait refusé d'épouser un membre du gouvernement. Personne ne voulait écouter son objection à ce mariage. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a décidé de se verser de l'essence sur son corps et elle y a mis le feu. Elle a été évidemment très, très grièvement brûlée et les médecins ont encouragé sa famille elle-même de l'emmener en Iran. Le chef de la province a refusé de donner à sa famille le permis qui permettait de sortir en exil, de sortir du pays. Et deux jours plus tard, eh bien, la jeune femme est morte de ses brûlures sur le chemin vers Herat. Alors, vous pouvez peut-être penser que ceci arrivait du temps des grands-mères. Eh bien non, c'est aujourd'hui ce qui se passe dans mon pays. Et l'histoire de Roshan, c'était il y a 2 ans. Kaboul, le témoignage de Gulgotay, ou plus précisément le long périple de sa vie. Elle souffre très fortement à la hanche, Gulgotay, mais ce n'est parce qu'elle a reçu un coup de bâton très très fort. Mais ce n'est rien comparé à la terreur qu'elle a des militaires. Parce qu'en fait, elle vient de commettre un crime. Et ce crime, c'est celui d'être sortie de chez elle sans être accompagnée d'un homme de sa famille. Gulgotay, elle a 37 ans. Et lorsque tout à coup elle s'est fait interpeller parce qu'elle était seule dans la rue, elle a eu tellement peur, elle était si terrifiée qu'elle n'a rien pensé répondre et qu'elle s'est enfuie. De retour dans sa maison, eh bien, elle avait sa petite fille de 5 ans qui l'attendait et qui est si faible et si malade qu'elle ne peut même plus pleurer. Son mari, lui, a reçu un coup il y a 18 mois et donc il est sans travail et couché blessé. Avant que les autorités talibanes, enfin que les talibanes prennent le pouvoir, Gulgotay travaillait, avait un maigre salaire pour un travail de nettoyeuse que lui avait fourni le gouvernement dans ses bureaux. Mais lorsque les talibans ont pris le pouvoir, elle ne pouvait plus travailler puisque les femmes n'ont pas le droit de travailler hors de la maison. Alors, elle a perdu, en même temps que son salaire et son travail, le droit de recevoir des services de santé parce que les talibans ont décrété que les femmes n'avaient pas le droit d'approcher aucun hôpital et donc aucun médecin homme. Et comme elle savait qu'il n'y avait pas de docteur femme de qui elle pouvait recevoir de l'aide, eh bien, elle n'avait plus accès du tout aux soins. Les autorités ont aussi bien sûr interdit, vous le savez déjà, l'éducation pour les filles et ont fermé toutes les écoles. Alors, la fille de Gulgotay ne recevra pas d'éducation comme pourtant Gulgotay rêvait de donner à sa fille. La guerre a fait s'envoler tous ses plans pour un futur meilleur. Mais pourtant, il faut bien que Gulgotay continue, survive et entre-temps, et qu'elle se concentre sur trouver un moyen pour essayer d'oublier pourquoi elle a mal à la hanche. Alors, le réseau des femmes afghanes n'a la possibilité que de se rencontrer que deux fois par mois. Mais là, elles font le bilan de ce qu'elles peuvent faire, entre autres de ces fameuses écoles pour filles dans les camps de réfugiés. Pour elles, c'est extrêmement important. Et puis, elles échangent les nouvelles de la résistance. Et il y a des choses qui sont parfois finalement drôles dans les petites résistances de tous les jours, mais qui indiquent bien que les femmes ne baissent pas les bras. Par exemple, à Kaboul, une femme veut aller à la banque. Elle a sur elle, évidemment, ce tchadri. Elle est accompagnée d'un membre de sa famille. Et puis, elle vient chercher le salaire de son mari. Et puis là, il y a des talibans qui sont dans la rue et qui sont prêts à la battre parce qu'en l'occurrence, elle n'a pas mis le fameux tchadri, excusez-moi, mais elle a juste un foulard, le tchador, sur la tête. Et alors, ils sont vraiment prêts à la frapper. Elle, qui allait en même temps apporter des oignons au marché, s'empare de ça qu'elle avait avec elle et elle se met à les frapper avec ses oignons. Et là, en s'énervant, elle dit « Mais maintenant, fichez-moi la paix !» Et elle les frappe avec ses sacs d'oignons et eux, tout à coup, ces talibans s'enfuient, pris de panique et dans la rue, eh bien, les gens applaudissent. Alors l'espoir de Nouria, de Goulala et de Shafika et des autres femmes du réseau des femmes afghanes, c'est bien sûr qu'elles le placent dans la nouvelle génération, que les enfants parlent enfin de paix après ces 30 ans de guerre civile. Et donc évidemment pour elles, c'est une priorité, c'est de s'occuper des enfants et de les instruire. Alors elles ont fait un très beau livre avec les enfants où il y a des dessins sur la paix, sur la guerre. Et c'est vraiment un effort essentiel qu'elles font, c'est priorité, c'est l'éducation des filles pour qu'il y ait des droits, en fait, pour tout le monde, mais que les femmes soient actives dans cette situation.